sur la bande. Podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la quatrième saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Avec les gars, on parle de mise en échec. C'est le retour, le jeu c'est... Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la quatrième saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Avec les gars, on parle de mise en échec. C'est le retour, le jeu 16 ans sur la Gazette. Tout un parcours, des gros segments sur nos athlètes. Les trois étoiles de la semaine me font tourner la tête. Tir de barrage, on shoot des questions en rafale. Des vrais sportifs qui font des entrées remarquables. On aime parler de tout, chaque journée est spéciale. Quand on est là pour se rassembler autour de la table.
Salut Zach.
Salut mon Seb, ça va bien?
Ça va bien toi?
Yes.
Yes, on avait une petite question, je pense, pour commencer. On y va-tu avec la date limite ou...
Yes, question de la semaine. On espère... Moi, j'ai pas la notification, Seb, mais s'il y en a qui nous écoutent en live, je veux votre réponse, ah, fans de hockey et fans des Canadiens surtout. Est-ce que M. Ken Hughes aurait dû bouger à la date limite pour aller chercher quoi et à quel prix? On va en parler plus tard avec le ref pour nos opinions, notre opinion, pardon. À part ça, j'ai fini avec ma question.
Yes, aujourd'hui, on a reçu Nathan Brisson, capitaine des Foreurs. Avant, je voulais remercier nos trois partenaires. Merci pour cette belle saison, quatrième saison. C'est pas encore fini, on a encore du stock pour vous. Fait que, on peut lancer, je pense, tout de suite la mise au jeu de la semaine.
La mise au jeu est une présentation du nouveau site web surlabande.com où que vous pouvez retrouver tous les articles écrits par nos chroniqueurs. Nos podcasts se retrouvent directement sur le site web après chaque épisode. Et nous avons aussi notre section chroniqueurs. Bonne mise au jeu!
Salut Nathan!
Salut!
Ça va bien?
Allez-vous!
Yes, merci! Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation de toi, s'il vous plaît, qui est la première depuis 2 ans et demi qu'on disait tantôt, parce qu'on t'a déjà reçu, mais ça fait un petit bout.
Oui, pas de trouble. Ben, je m'appelle Nathan Brisson. Je joue au hockey depuis très très jeune. J'ai commencé avec les Seigneurs et Mélisle. Puis oui, Bantam. En fait, j'ai fait un an avec les Vikings Jet 3. C'est ma troisième année avec les Foreurs de Val-d'Or.
Yes, parfait comme ça. Fait qu'on va continuer avec le segment autour du filet.
Ce segment d'Autour du filet est une présentation de Boutin Performance. Si l'entretien de votre véhicule vous tient à cœur, en Abitibi, c'est le garage où aller. 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or, le meilleur garage. Bon segment.
Yes, première saison avec les Foreurs, tu as fait 23 points en 65 parties. C'est quoi qui a été ta plus grosse adaptation à la GMQ comme tu as joué juste une saison à Midget?
Ben, c'est sûr que la vitesse du jeu, c'est pas la même chose. C'est ça qui a été le plus dur. Mm-hmm. Ça a pris, j'ai marqué mon premier match, mais après, je pense que ça a pris 49 matchs avant que je rescore un autre but.
OK.
Pendant ce temps-là, ça a été tough. Je faisais pas beaucoup de points. C'est sûr que je m'adaptais, surtout physiquement. Je suis pas le plus grand, je suis pas le plus gros, mais je suis capable de jouer physique. Puis le côté physique, le côté vitesse du jeu, c'était ça qui était vraiment, vraiment différent de Midget 3, même si j'ai joué un an. C'est ça qu'il a fallu que je m'adapte le plus. Là.
Est-ce que tu jouais avec le bâton plus serré ou d'avoir de faire plus de points?
Je suis arrivé avec beaucoup de confiance. En marquant mon premier match, je me suis dit que je suis capable de jouer en cette ligue-là, je suis bon.
Mais c'est le jeu-là?
Ouais, ben, après ça, pour le reste de la moitié de saison, ça a été plus dur. Après 10-15 matchs, je me disais, ouf, OK, c'est pas ce que je pensais. C'est une ligue compétitive. Tout le monde qui est dans cette ligue-là mérite d'être là. Tout le monde est bon. Puis, c'est sûr que tu joues un peu plus stressé quand tu marques pas pendant une couple de matchs, mais il faut juste que tu t'habitues, tu aies confiance en toi, puis tout va bien aller.
Une autre chose qui est certainement différent, c'est un peu la réalité de la ligue, tu sais, le business, puis tout. Je vais t'en parler avec ma prochaine question. Dans le fond, les Foreurs commençaient le cycle de reconstruction. Fait que c'est là que tu commences à comprendre que les joueurs avec qui tu commences l'année, tu finiras pas nécessairement avec eux parce que des échanges, puis tout. Comment tu réalises ça, que tes meilleurs amis peuvent partir, puis comment tu vis avec ça?
Ben, c'est sûr que tu es arrivé une couple de fois, il y a eu pas mal d'échanges. Même dernièrement, Alexandre Guy, Nathan Marie, Nathan Drapeau aussi qui est parti. C'était des gars que je m'entendais bien dans la chambre, puis les voir partir, c'est sûr ça fait mal, mais c'est pour le bien de l'équipe. C'est ça que je veux, gagner, c'est sûr. Mm-hmm. Fait que les décisions que les coachs puis les directeurs généraux y font, je les prends même si ça fait mal.
Okay. Y a-t-il un joueur la première année qui t'a pris un peu plus sur ton aile, un vétéran ou...
Ben, c'est sûr que Justin Robda et Alexandre Dussault, c'est des excellents vétérans. Là. Ils ont continué leur carrière, on le voit, qui sont capables de jouer au hockey. Fait que c'est un niveau hockey qui m'a vraiment aidé. Mais sinon, il y a celui que j'avais fait le premier podcast, Frédéric Potvin. C'est lui qui m'a habitué, il m'a amené partout à Val-d'Or, il m'a fait rencontrer du monde. C'est vraiment lui qui m'a introduit, je pourrais dire, à Val-d'Or, puis à la LGMQ. Il m'a vraiment aidé à me sentir bien.
Il t'a amené partout à Val-d'Or, fait que vous avez fait un trip de 10 minutes à peu près.
Ouais, j'ai découvert Val-d'Or, ça n'a pas été trop long, mais c'était quand même bien.
Deuxième saison à Val-d'Or, tu portes le A sur le chandail. On savait que ça n'allait pas être une saison facile, mais comment garder le moral lors de cette année-là?
Ben, c'est sûr que c'était pas une saison facile. On a eu des séquences de défaites. On a eu, pas fait les playoffs pour une deuxième année de suite. Le moral dans la chambre, c'était pas le meilleur, ça c'est sûr. Peu importe l'équipe que t'es, si tu gagnes pas. Dans la chambre, ça va être plus difficile, mais on savait qu'on était en reconstruction. On savait qu'on ne serait pas dans le haut du classement. Tout ce qu'on voulait, c'était gagner des matchs, prouver qu'on était capable de gagner, même si on n'était pas, on n'avait pas le plus gros talent. Ça a été un peu plus dur, mais dans la chambre, on continuait à essayer de faire une chimie, si je peux le dire, puis essayer de builder pour les prochaines années.
L'arrivée de Veilleux, comme 16 ans, ça... Tu vois, ce jeune-là gérer un power play comme qu'il gère, là, ça devait être.
Mais oui, c'est sûr. Phil, c'est honnêtement, c'est probablement le gars que j'ai vu avec le plus de talent naturel au hockey. C'est incroyable. Il nous a beaucoup, beaucoup aidé l'année passée. Puis cette année encore, c'est notre premier pointeur de l'équipe. Très haut dans la ligue aussi. Ce gars-là, c'est sûr qu'il aide tout le monde à être meilleur. Là.
Parfait. Au côté personnel, 36 points en 67 parties. Comment, à quel point ton air proche au deuxième camp est différent de ton premier camp, mettons? Comment t'es arrivé préparé différemment ou exactement pareil? Est-ce que tu avais un stress de moins?
Ben, j'avais vraiment bien fini la saison, ma première saison à 16 ans. J'ai réussi à avoir plus de confiance. Fait que j'étais arrivé avec beaucoup de confiance. Je savais que j'étais capable de jouer à cette ligue-là, puis je savais qu'il fallait que je sois un des leaders de l'équipe, justement parce qu'on est en reconstruction. J'étais arrivé avec un bon mindset. C'est sûr qu'au début de l'année, le but, c'est tout le temps de faire les playoffs. Arrivé au milieu de l'année, on savait que ça serait plus dur, mais quand même, on gardait ce mindset-là. Puis j'essayais juste d'être un bon leader, de garder tout le monde positif.
Être un leader à un si jeune âge, avoir un A sur son chandail, ça peut être vu comme une belle récompense, mais est-ce qu'on peut penser comme un fardeau aussi? Parce que c'est des grosses responsabilités, de gros patins à chausser, je vais dire comme ça, après les joueurs qui sont passés avant toi.
C'est sûr que c'est des grosses responsabilités, mais il ne faut pas s'y penser. Tu le sais que tu as un A, il faut que tu sois un leader. Il faut que tu enlèves cette pression-là sur tes épaules puis que tu la mettes sur la glace. Il faut juste que tu deviennes encore une fois un leader autant sur la glace que en dehors de la glace, surtout quand c'est plus dur comme les dernières années.
Oui, parce que leader ne veut pas dire tout le temps le gars qui se lève dans la chambre et qui parle. Ça peut être juste celui qui travaille toujours à fond sur la glace et qui est toujours sur la coche.
Ben oui, leader, tu peux parler dans la chambre. Il y a plein de différents leaders. Tu peux parler dans la chambre, tu peux juste travailler sur la glace puis j'essaie d'être toutes ces sortes de leaders-là en même temps.
Au repêchage, on a eu l'annonce que tu allais devenir capitaine de l'équipe. Pour ta part, comment tu l'avais appris?
Ben, je l'ai appris en même temps que tout le monde, en fait. Quand Maxime a lancé le live, je ne le savais pas encore.
Okay.
Pendant qu'il donnait le chandail, je l'ai appris. C'était une bonne surprise. Je Il y a plusieurs personnes qui m'en avaient parlé si je m'attendais à avoir le C cette année ou l'année prochaine. Je pensais plus que ça allait être l'année prochaine, mais j'étais autant prêt pour être capitaine cette année.
On a un commentaire, Frédéric Potvin, qui dit « Meilleur steak que j'ai eu de ma carrière.
» Ah, merci.
Le draft, les Foreurs sélectionnaient 3 joueurs en première ronde. Est-ce que tu les connaissais déjà un peu? Avais-tu une petite idée, c'était qui?
Ben, si je les connaissais, non, pas vraiment. T'sais, j'avais suivi un peu le MJ3, mais je savais pas exactement qui qu'on allait repêcher. Peut-être que cet Ayotte, c'était un peu plus... il était dans le haut de toutes les listes, que je me disais qu'il y avait des bonnes chances qu'ils viennent, mais sinon, je les connaissais pas. J'ai appris à les connaître cette année, puis c'est tous des bons gars, c'est des gars qui vont pouvoir nous aider dans les prochaines années pour aller loin en série.
Mm-hmm. Puis, quand je voulais dire ça, tu as eu la chance quand même de monter sur le podium, mais au draft, à ton draft, tu n'as pas eu la chance, mais c'était comment de vivre ça avec mettons, Benjamin Cossette-Ayotte. C'est sûr, c'est pas ton draft, là.
Ben, c'était surtout ça que je voulais faire. Là. J'avais pas eu la chance d'avoir un draft en présentiel, mais c'était en ligne. J'ai demandé à Maxime si je pouvais aller au draft à Moncton, puis il était super content de l'idée, il nous a amené. Puis être là-bas, c'était vraiment, j'ai eu conscience de c'était quoi un vrai draft. Puis j'ai pu, toutes les recrues qu'on a repêchées, j'ai pu les rencontrer, puis leur donner, leur parler un peu.
OK.
On est presque rendu à la grosse année des Foreurs pour ta 3e saison. Comment tu te montres comme leader? On a parlé aussi, c'était un peu... tu sais, t'es à ta 3e saison, il te reste encore 2 autres saisons, je me trompe pas.
Oui, c'est ça. On est encore on est au milieu de classement. C'est sûr que pour moi, notre classement, il reflète pas vraiment sur notre équipe parce que notre début de saison, il était pas ce qu'on s'attendait. Mais depuis Noël, on est excellent. On a des bonnes séquences. On est offensivement, peut-être défensivement un peu plus dur, mais on s'adapte, on est capable. Notre défensive va être très jeune. Dans 2 ans, ça va être quelque chose, ça. Puis pour les prochaines années, on commence à avoir une excellente chimie dans toute la chambre, peu importe qui. C'est sûr que les 20 ans, Reinhardt, Arsenault, Bishop, ça va nous faire mal les perdre, mais on va être capable d'aller en chercher d'autres ou garder ceux qui sont dans notre équipe. On peut avoir des très, très bons leaders pour les prochaines années.
Ouais, présentement, cette saison, 65 points en 57 parties. Comment expliques-tu la chimie avec tes 2 compagnons de trio? Un trio qui marche fort en tout cas, on ne va pas le dire, mais un trio qui marche en sacrament, je l'ai dit finalement. Reinhardt et Veilleux.
Ben oui, c'est sûr. Comme je l'ai dit, depuis Depinel, on est incroyable. C'est depuis Reinhardt est arrivé, en fait, l'équipe elle a pas mal changé. Ce gars-là, il a amené de l'expérience dans la chambre, il a amené du leadership. Avec lui, Veilleux, c'est tout marche. On se complète bien les 3. Veilleux, il est capable de faire plein de jeux. Reinhardt, c'est un scoreur incroyable. Moi, je peux aller travailler dans un coin. Puis on se complète tellement bien que depuis Noël, on va juste de l'avant.
Je sais pas c'est quelle semaine, là. Ça fait pas longtemps, mais on pensait quasiment que les 3, vous alliez être les premières étoiles, là. Chacun votre position de la Ligue canadienne. Genre.
Ouais, probablement ma meilleure fête à la vie. Là. Les 3, on avait 19 points, je pense. Puis c'était une fin de semaine que je vais me rappeler longtemps. Les 3, on était tellement content, on n'arrêtait pas, tout marchait, la chimie était incroyable, ça continue encore. Là.
Ça fait du bien un peu de boost après 2 saisons un peu plus compliquées. Hein.
Oui, c'est sûr que dans les saisons passées, les lignes ne restaient pas tout le temps les mêmes, mais je peux pas blâmer le coach, il n'y avait pas grand-chose qui marchait, il fallait essayer des choses différentes, puis cette année, la ligne elle marche, ils nous gardent ensemble, tout va bien, puis j'espère que ça va rester comme ça pour les années prochaines.
Vendredi, qui vient de passer, Beaunoyer a réussi son premier jeu blanc. C'est... La dernière fois, c'était en 2022. Là, c'était ça a passé proche aussi contre Québec. Là. Ça devait être le fun et donner son blanchissage.
Oui, c'est ça. On attendait ça depuis un bout. Il y avait beaucoup, beaucoup d'opportunités pour Emile d'avoir un blanchissage. C'est sûr que quand il se faisait marquer, beaucoup de fois, c'était pas sa faute. C'était plus notre faute. On s'en voulait, surtout contre Québec. Quand il se faisait scorer à 0.1, là, ça nous a pas mal coupé le moral, mais surtout avec nos, je dirais pas nos lacunes, mais on a un peu plus de problèmes défensivement, on donne beaucoup de buts. Puis donner un blanchissage à Emile comme ça, c'était assez beau pour toute l'équipe.
C'est sûr que, tu sais, étant ancien goaler, le blanchissage est une belle récompense, sauf qu'en même temps, OK, il s'est fait scorer à 0.1, mais son équipe a gagné. Le connaissant de genre de vue de partisan ou de journaliste, il a l'air d'être un gars d'équipe. Fait que probablement qu'il n'y avait pas le moral à terre non plus, là. Vous avez gagné pareil.
Lui, il était vraiment content, même dans la chambre après. C'était plus toute l'équipe, on s'excusait, puis tout, lui, il s'est même élevé dans le champ, puis il a dit, les gars, c'est bien correct d'arrêter de vous excuser, on va avoir d'autres chances, puis il était vraiment, même s'il avait raté son blanchissage, c'était plus l'équipe que lui qui était démoralisé.
C'est vrai que son premier, c'est quelque chose de plus gros que s'il y en avait déjà sept dans la même saison.
Oui, c'est sûr, ça lui a fait du bien d'en faire avoir un blanchissage.
Ouais. Puis ça arrivait la dernière semaine, les deux buts de Jacob Gauthier, ça a été le fun pour le kid aussi. Là.
Ouais, ça c'était un bon moment. J'ai pas vu son premier but, malheureusement.
Ouais, c'est vrai, t'étais parti faire.
J'étais parti me faire des points de suture, mais l'atmosphère dans la chambre, surtout après une grosse victoire comme ça contre une équipe qui est très très bonne, c'est une très belle atmosphère. Tout le monde avait contribué dans ce match-là. C'était pas juste une ligne, juste une paire de défenseurs. Donc, je pense qu'il y avait cinq gars qui n'avaient pas un point. C'était une belle victoire d'équipe, puis ça fait du bien à tout le monde.
Parfait. Cette année, c'est ton année d'éligibilité. Tu y penses-tu un peu ou tu essaies de mettre ça de côté et faire ta saison?
Bien, c'est sûr que j'y pense. C'est le but à tout le monde depuis qu'on est jeune. Là, on veut se rendre à la Ligue nationale. Fait que ça joue dans la tête, mais j'essaie de ne pas y penser. Pour la saison, tout ce que je veux, c'est bien finir la saison et montrer aux recruteurs que je suis capable de jouer plus haut. On va plus y penser après la saison à la LNGMQ puis à la LNH, puis pour le moment on se focus sur les séries surtout.
Parfait. Écoute, en parlant des séries, les Foreurs, on doit se sentir un peu underdog, sauf que vous avez déjà battu des équipes plus haut que vous. C'est sûr que l'objectif c'est créer la surprise. Comment on va faire pour aller le plus loin possible justement?
Ben oui, comme je le disais tantôt, moi je pense pas qu'on est 13e dans la ligue, 12e maintenant.
Ouais.
On est meilleur que ça, on le sait. On peut battre n'importe qui. Nos futurs possibles adversaires, on les connaît. Mm-hmm. C'est Rouyn, Sherbrooke, Shawi ou Blainville. On a battu ces clubs-là une couple de fois cette année. On est capable de battre qui on veut quand on joue comme il faut. C'est sûr qu'on arrive underdog, mais nous, on n'a pas cette mentalité-là. Il faut arriver prêt puis juste penser qu'on est capable de battre n'importe qui. Ça peut nous rendre très loin.
Parfait.
L'an prochain, si tout va vers le plan des Foreurs, ça devrait être une année qu'on va être plus haut dans le classement. Comment t'entrevois la prochaine saison?
Ben, les deux prochaines saisons, pour moi, ça va être nos deux grosses années. Mais notre jeunesse, en ce moment, on est une équipe très, très jeune. Mm-hmm. C'est ça qui va nous aider les prochaines années. Tous nos jeunes, c'est des gars qui vont se développer encore. C'est Gucci, vous en avez parlé, il est gros, il est fort, il est juste à 16 ans. Les deux prochaines années, lui, Cossette, Ayotte, Fortin, Carbonneau, toute notre défensive va être vraiment incroyable. C'est tous des jeunes gars. Mm-hmm. Puis à l'offensive aussi, il y a Olivier, il y a la belle Phil encore qui est là pour 3 ans peut-être.
Mm-hmm.
On va avoir des très, très bonnes chances d'aller loin.
Moi, je veux y aller parce qu'il y a un petit gars que j'ai joué avec qui est maintenant ton coéquipier. Puis justement, dans la game que j'ai été voir, dans ma tête à moi, il a tellement changé. Mathias Bourque, quelle peste! Genre, c'est clair que c'est clair que t'aimes mieux l'avoir dans ton équipe que contre toi, mais parle-nous un peu de l'identité, qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe?
Ben oui, ben Mathias pourrait me faire penser un peu à moi à 16 ans, en fait. Il fait juste travailler, peu importe la game, peu importe le pointage, il travaille. Là. Il va partout, il va dans les coins, on le voit dans chaque game, il se pogne avec l'autre équipe, même si le gars il fait 6 pieds 4, 200 livres, il va aller devant lui, il va le pousser, puis ça peut aider n'importe quelle équipe. Là, un gars comme ça, n'importe quel trio qui va être, c'est sûr qu'il va aider les coéquipiers à kicker.
Ouais. Ça me fait penser au futur trio Bennett, Ketchuk, puis Marchand dans la Ligue nationale.
Ça va être quelque chose.
Ça va être dur à affronter. On n'a pas parlé ben, mais Bondor, ça va aider aussi, ça va aider la jeune défensive aussi, à 17 ans, quand même aussi. Le bâton assez long.
Ouais, c'est comme Gucci, il est gros, il est grand, il y a tout ce qu'une équipe LNH voudrait, en fait. Puis, juste à 17 ans, quand il va se développer, déjà qu'il s'est beaucoup amélioré depuis le début de l'année, quand il va se développer à 18, 19 ans, ça va être quelque chose de notre défensive.
Ça va être très intéressant.
Pour avoir vu un autre article sur un autre de tes coéquipiers, Samuel Fiala apprend le français, c'est ça?
Oui.
Ouais, c'est spécial, mais c'est cool quand même. Là. Ça fait une couple de saisons qu'il est là. Ben, une ou deux.
Oui, c'est sa deuxième année. C'est sûr qu'il prend ce cours-là depuis qu'il est arrivé, en fait. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas. T'sais. Il connaissait déjà l'anglais, fait que c'est quelque chose qu'il pouvait plus se focusser sur apprendre le français. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses, pas beaucoup de personnes qui font. C'est assez impressionnant.
Ouais. Je pense qu'il parle quatre langues, je me trompe pas, c'est ça que j'avais lu.
Ça se peut, oui. Je sais pas me c'est quoi la... de... Je me rappelle plus trop de la quatrième, mais.
Ouais, me semble que j'avais lu ça.
Assez de langues, oui.
Géo, ouais. Lui, c'est quoi sa nationalité?
Tchèque.
OK. Fait que anglais, français, je sais pas comment tu dis tchèque, là, ça doit être.
Ouais.
Bref. C'est bon, fait qu'on va te laisser avec le jeu César du hockey pour on s'en reparle tout de suite après.
Parfait.
Le Jules César du hockey.
Bonjour tout le monde, salut Nathan.
Salut.
Ça fait spécial de revoir un joueur qu'on avait reçu il y a 2 ans.
Oui.
Et aussi pour ces raisons-là, je m'abstenais de tout commentaire de grand-mère, là. niveau physique et tout. J'écoutais tantôt le podcast d'il y a 2 ans, puis c'est vraiment très différent, là, je dois le dire. Et maintenant, ben, tu l'as dit, tu es le capitaine. Puis dans le temps, on parlait de toi et Frédéric Potvin, là, justement, qui étaient les deux recrues qui venaient s'installer pour un bon bout à Val-d'Or. Mais je veux commencer là-dessus, là, en fait, parce que on parlait surtout de l'impact de Justin Robida. Puis vous étiez vraiment, justement, à un point en train de dire que c'était comme un exemple, puis que c'était une personne dans la chambre, puis que... Oui. Ça faisait réaliser un peu c'était quoi la ligue et c'était quoi que le prochain niveau attendait. Je serais curieux de savoir maintenant, tu es le capitaine, y a-tu des choses que tu peux venir appliquer qui sont directement liées à Robida? Comme que tu te dis, ah ça, Robida le faisait, moi je veux l'amener. Tu sais, des liens directs.
Ouais, ben son leadership est incroyable. Que ce soit lui ou Alexandre Doucet, c'était des gars qui étaient dans la chambre puis sur la glace. Il voulait tout le temps montrer l'exemple. Il sortait dernier des pratiques. Pendant les games, il se levait. Même quand on perdait, il faisait tout ça. J'essaie de les copier, mais c'est sûr que des gars comme Justin Robida, Alexandre Doucet, c'est tough d'avoir d'autres personnes comme eux. C'est des personnes qui sont très, très dures à reproduire, autant au niveau talent qu'au niveau leadership. Mais j'essaie d'amener tout ce qu'ils ont fait à Val-d'Or. T'sais, ils ont laissé une très grosse marque à Val-d'Or. Ça a été des gars très importants pour même pour l'histoire des Foreurs, je dirais. J'essaie de prendre tout ce qu'ils ont laissé et de le ramener à mes coéquipiers.
Mais en même temps, si je ne me trompe pas, Robida, quand on s'en parlait, lui était à son année de 20 ans. Donc techniquement, toi, il te reste comme un 2 ans pour encore plus laisser ta marque comme Robida et Doucet. Là, je vais revenir au côté repêchage. Tu dis que tu n'y penses pas trop, mais là, pour comme une dizaine de minutes, il va falloir juste y penser un peu plus.
Ben oui.
sans mettre de pression, là, bien évidemment. Mais c'est que ça m'intéresse parce que l'autre fois, je regardais vos matchs et je faisais une analyse de Philippe Veilleux. Et comme tu l'as dit, c'est fou comment votre trio, ça clique. Comment votre trio, puis moi, ce que j'avais dit même dans mon analyse, c'est que je trouvais que c'était comme le trio parfait. Et là, dans ce sens-là, c'était pour Veilleux. Je disais que c'était parfait pour la situation de Veilleux, mais ça l'est aussi pour toi. Puis je me demande... C'est sûr qu'il y a des scouts, c'est sûr que vous avez eu des consultations ou en tout cas un peu d'échanges à date. Ouais. Est-ce que, juste commençant pour toi, c'est comment ça, c'est quoi tes expériences à date là, avec les équipes de la Ligue nationale?
Ben, j'ai eu une couple d'expériences, j'ai eu des emails, j'ai eu un ou deux appels, puis j'ai eu des face-à-face. Mais c'est sûr que je ne suis pas sur les listes, fait que ça c'est un peu plus dur. T'sais, je ne le prends pas personnellement, je comprends. C'est sûr que c'est mon but d'être sur les listes, d'être repêché, c'est peut-être un peu plus dur, mais au moins avoir un camp. Puis, ça me dérange pas, j'essaie de pas y penser encore une fois, mais j'ai une couple d'expérience. Il m'explique comment ça marche. Je vois que la LNH, c'est, encore une fois, midget 3, junior, c'était pas la même chose, mais junior, LNH, c'est un beaucoup plus gros step. C'est quelque chose de vraiment différent. Puis, ça, je prends tout ce qu'il me dit, je le prends, je le mets dans ma banque d'expérience, puis j'espère avoir une chance.
Et justement, là, tu as dit que tu n'es pas classé sur la liste. On sait que à chaque année, la liste, oui, elle veut dire quelque chose, mais au final, il y a des gars qui se retrouvent quasiment dans le top 60 de la liste et qui ne sont pas repêchés et vice-versa. Là. Est-ce que tu as parlé d'une invitation dans un camp professionnel? Est-ce que c'est déjà maintenant que tu peux commencer à faire comme « Ah, il y a peut-être 2-3 équipes que je sens qui pourraient m'inviter? » Est-ce que ça a déjà été dans les discussions?
Ça
a-tu avancé de même?
Tu le sens que quand il y a des équipes un peu plus intéressées, c'est comme le repêchage de la GMQ, en fait. Je savais que Val-d'Or puis 2-3 autres équipes, ils me donnaient vraiment beaucoup beaucoup d'attention, si je peux dire. Puis je savais qu'il y avait des équipes qui étaient plus intéressées. Puis comme tu disais, les listes. Pour la LGMQ, j'étais milieu deuxième, fin deuxième. J'ai été repêché fin première ronde. C'est sûr que c'est pas la même chose pour la LNH. Il y a beaucoup plus de joueurs à choisir, mais j'aurai pas de trouble avec ça.
Aussi, peut-être que c'est ton. Je sais pas, là je parle juste hors script, là, mais dans le sens que moi, on dirait que la manière que je le vois, c'est que c'est peut-être. Ton côté de jeu est peut-être le moins flashy, mais comme tu l'as dit, tu vas faire les choses essentielles qui vont permettre, mettons, à Veilleux, après, avec sa créativité, de faire que vous ramassiez à gagner les matchs, des fois, à haut score. Parlant de matchs à haut score ou autre, je veux faire juste un petit quiz là, pré-draft, parce qu'il y a quelques joueurs qui se sont fait poser ça, des fois, comment on appelle ça, à l'événement du Combine. Là, puis, ouais. Ils sont, puis, en gros, je vais juste te poser trois centres. Je vais vouloir que tu me dises si sont gauchers ou droitiers. Puis, c'est quoi un peu leur style de jeu ou, mettons, ta manière de les contrer. Puis là, j'essaie de prendre trois centres qui seraient des match-ups contre toi, mais je sais que des fois, c'est pas exactement ce centre-là que tu vas jouer. Puis si tu as des détails de plus à me donner, ben vas-y. Donc, le premier, c'est Matteo Nobert.
Les gauchers-droitiers, honnêtement, je suis pas un expert là-dedans. Je regarde avant les matchs pour les mises au jeu, mais...
Pour la mise en jeu, oui.
Nobert, je dirais gaucher.
OK. Son style, puis...
Son style, c'est un gars qui joue partout. Pas mal tous les gars rendus à LNH, je trouve que tu es capable de jouer partout. Ce gars-là, il est capable de faire des points. Je pense qu'il est rendu à beaucoup de points, mais...
Ouais.
Il est haut dans les repêchages puis il le mérite. C'est sûr que ces gars-là, c'est des gars que j'aimerais jouer contre dans des autres niveaux, mais Matteo Nobert, c'est un très bon gars qui peut se rendre loin.
Est-ce que c'est ton match-up quand tu joues contre l'Armada?
Quand je joue contre l'Armada, ça m'arrive souvent de jouer contre lui. C'est soit lui ou Vincent Desjardins, je dirais. Ouais, que ce soit mis au jeu ou pendant le match, c'est un gars que c'est sûr qu'il faut que tu le regardes. Lui, Carbonneau, Desjardins. Même sans dire qu'il y a Gourianov.
Ouais.
C'est quatre gars assez dangereux qu'il faut que tu watches tout le temps sa glace. Là.
Ouais, ça y va par là, mettons. Mais là, juste pour ton information, je ne sais pas si vous rejouez contre l'Armada, là, mais il est droitier. Mais c'est vraiment. C'est plus important que tu saches comment il joue. Je pense que son côté de bâton, ça, tu vas le voir en face à face. Le deuxième, vous avez joué il n'y a pas longtemps tant que ça contre lui, Nathan Quinn.
Oui, Nathan Quinn à Québec. Ouais. C'est un gars, encore une fois, qui est capable de faire des points défensivement. Il est très, très bon. Il joue partout. Un peu moins d'expérience contre lui parce qu'on joue juste trois fois contre Québec dans une année.
C'est ça.
Mais de ce que j'ai vu de lui, c'est un gars qui peut produire, qui peut jouer défensivement. Puis je dirais qu'il est gaucher, lui aussi.
Il est droitier aussi, mais droitier. C'est pas grave. J'essayais de voir, là, parce que vous aviez joué il y a peut-être une ou deux semaines là, contre eux, là, deux matchs de suite. Puis le dernier, c'est un joueur un peu différent. Puis lui, c'est ça. Là, j'ai comme oublié que je pouvais revoir, parce qu'avec Elite Prospect, j'ai accès à tous vos matchs, là, tous vos logs. Mais Liam Kilfoyle de Halifax.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez joué encore contre eux. Là.
Ouais, on a joué deux matchs contre eux. Juste deux matchs, ça fait un peu. Ça fait longtemps, par exemple. Je pense qu'il a été blessé un peu cette année, si je ne dis pas n'importe quoi, mais lui aussi, il produit beaucoup. Là. Puis, c'est un gars très dangereux offensivement. C'est un gars que je dirais qu'il ressemble un peu à Veilleux. C'est pas le plus grand. Il est capable de produire, il a beaucoup de créativité. Puis, LNH, c'est des choses qu'il veulent aussi. Là.
Ouais, très hargneux. Il patine énormément vite, là. Ça m'a étonné énormément. Puis là, ben, il y a Simon Paradis qui t'a donné la réponse, là, mais je pense pas que tu vois les commentaires. Je sais pas, tu vois les commentaires. Hein?
Ouais.
Fait qu'on va te donner la bonne réponse pour gaucher. Puis je veux finir parce que là, tantôt, quand j'écoutais le podcast d'il y a deux ans, c'est ça, t'sais, on parlait de Robida et tout. Puis là, un peu plus tôt dans le podcast-ci, là, vous parliez un peu depuis le rebuild, parce qu'il y a deux ans, c'était beaucoup la discussion que Forer amorçait leur rebuild, et que là, maintenant, ben c'est ça, là, commence à y avoir les choix repêchage comme toi, Veilleux, que cette ayotte qui remonte puis qui reprenne le flambeau. Mais c'est peut-être tôt encore parce que, comme on dit, Robida, lui, c'était 2 ans plus tard, là, bien évidemment, si on lui avait parlé il y a 2 ans. Mais ça serait qui, en ce moment, le ton Brisson, là? Donc le petit rookie que tu vois comme devenir le prochain, tu sais, je pense que je veux pas que ça soit une question piège, là, mais tu sais, y en a-tu un là, que tu dis à lui, tu sais, il est rentré il y a 16 ans, mais tu sais, il lead par ses actions ou par ben, qu'est-ce qu'il dit?
Que cet aïe, c'est sûr que c'est un leader, là, même s'il a 16 ans, on le voit qu'il prend de la place dans la chambre, mais qu'il est capable d'être un bon leader, puis j'ai pas de doute qu'il va être capable de prendre la relève quand je vais partir. C'est sûr, sur la glace, c'est un gars qui est calme défensivement. Il est capable de stopper n'importe qui. Il a des très bonnes habiletés offensives aussi. Il peut faire des points, il peut produire en power play. Il est excellent pour faire des jeux. J'ai pas de doute qu'il va prendre ma place quand je vais partir.
Ah ouais, ben c'est un peu cette réponse-là, je m'attendais. Là, juste sur la glace, sans le connaître, puis sans être en Abitibi, on le voit là. Prendre un peu du galon au fur et à mesure que la saison avance. Mais sur ce, Nathan, je veux te souhaiter une bonne fin de saison et série surtout. Là. Des bonnes rencontres avec les équipes professionnelles. Je vais vraiment pas être étonné si je vois ton nom sortir. Et même là, si je vois ton nom être invité dans un camp, là, ça m'étonnerait vraiment, vraiment pas. Continue comme ça.
Merci beaucoup.
La mise en échec est une présentation de CAG Sport pour des Raz de cartes d'hockey, vente et échange de cartes sportives de toutes sortes et futurs breaks de boîtes de cartes. Consultez la page Facebook CAG Sport. Mise en échec.
Mise en échec, on va starter ça avec moment de bienvenue dans la ligue. Là, tu te dis que tu as scoré à ton premier match. Ça peut être ça, ça peut être une fois que tu as eu l'air fou, une grosse mise en échec que tu as reçue. Je sais pas si tu as déjà marqué dans ton but.
Non, ben c'est sûr que mon premier match en plus c'était à la maison, là, c'était à l'Armada. Ça m'a montré c'était quoi la ligue en marquant mon premier match. J'ai vu tous les gars, ils étaient contents. C'était un très très beau moment. Puis ça m'a bien accueilli dans la ligue.
Y a-t-il une grosse célébration qui venait avec ça ou?
Ben, pendant le match, c'est sûr que c'était dans l'adrénaline, j'ai juste paniqué un peu. Il n'y a pas eu de grosse célébration. J'étais très, très content avec tous mes parents, tous mes proches qui étaient là. Mm-hmm.
Puis maintenant que c'est plus ça t'arrive plus souvent de marquer, justement, est-ce que t'es un gars de célébration? T'en as-tu une préférée?
Ben, je fais pas mal tout le temps la même affaire. C'est jamais, jamais des grosses célébrations. Là, quand je marque, on dirait que j'y pense pas. Je fais juste lever mes bras, lever ma jambe, peu importe, puis je vais juste célébrer avec mes teammates. Là.
Un moment hockey inoubliable pour toi?
Un moment hockey inoubliable? Ben, c'est sûr que cette année, quand j'ai su qu'on faisait officiellement les playoffs, c'est un gros moment. Là. Ça, c'est... J'étais un joueur de série, puis j'ai très hâte.
C'est ça. Mon pote, ton père m'avait dit que t'étais un gars de playoffs, que t'avais honte de...
Mais... Mon premier tour du chapeau en carrière contre Charlottetown il y a un mois à peu près, c'est un autre moment que j'ai... C'est un très, très beau moment, surtout qu'avec Veilleux, on a eu notre 100e point sur le même jeu, dans le même match. C'était un match que je ne vais pas oublier.
Il faut séparer la POC en deux dans ce temps-là.
Mais oui.
écoute, on parle de ton premier but. J'aimerais que tu te rappelles de tes 5, parce qu'on parle du goaler aussi, tes 5 coéquipiers sur la glace à ton premier but.
Ouais, ça, je m'en rappelle bien. C'était sur une pause de pas de vin, justement.
Mm-hmm.
Pas de vin qui a fait un. En fait, je donnais à
Provo. Claude, tu peux mettre la vidéo, là, mais si ça. Ah, tu vas pouvoir parler en même temps. Ok, pas de vin.
Non, ouais, je l'ai donné à Provo. Provo, il a essayé de faire un tir, puis.
Je l'ai mis où l'autre, là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on va revoir le plus la séquence, là. Mais... Pas de beau, pas de... Tabarnouche, j'ai de la misère à parler. Pas de beau, pas de vin. McAllen, ouais. Pas OK.
Ouais. Non, juste un retour. C'était pas le plus beau but, mais c'était un but très, très important pour moi. Là. Ça, c'est sûr.
Puis le goaler?
Ouais, le goaler, était... Je sais pas ce qui s'est passé. Pas de vin, il a fait un beau jeu. Il a essayé de revenir tout de suite. Le goaler, il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de l'arrêter.
Non, mais je parle de ton goaler à toi, c'était qui?
C'était Blackburn.
Ouais, exactement.
Ouais, exact. Provo, Parker, McAllen, pas de vin, toi et puis Blackburn. C'est vrai.
On a même les gars de l'Armada qui étaient sur la glace. Un peu moins. sinon, il y a Simon Paradis qui dit l'arc à flèche serait une bonne prochaine célébration à la piquée Souban.
Je peux essayer, mais il faut que j'y pense. Faut que j'y pense après un but, sinon ça arrivera pas.
Yes, fait que, on va lancer avec le dernier segment, les tirs de barrage.
Les tirs de barrage sont une présentation de Perfo Elite. Pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit seul ou en équipe, hors glace ou sur glace, physique ou mental, et tout ce qui touche le développement global, rendez-vous sur perfoelite.com. Bon tir de barrage.
Yes.
De barrage, coupe de questions à rafale pour toi. Après, on te laisse passer à 3h30, je peux dire une bonne journée.
Ben oui.
C'est bon. Un joueur à qui tu te compares?
Je dirais Jonathan Toews. Un gars défensif, un gars de mise au jeu, un gars qui produisait aussi.
Mm-hmm.
Il travaille, il faisait tous les petits détails, les coachs, il l'aime. C'est ce genre de joueur-là que je veux être.
Équipe préférée NHL, si tu me nommes les Canadiens, je vais te demander ta deuxième.
Non, ben, j'ai pas vraiment de justification, mais ça serait les Islanders de New York.
Okay.
L'équipe que j'aime beaucoup, je compte tout le temps pour eux, même quand c'est contre les Canadiens, puis surtout à cause de Matthew Barzal, j'aime vraiment, vraiment son style de jeu, un gars qui patine, un gars qui travaille encore, puis c'est ça.
Tu penses quoi du départ de Brock Nelson?
Ben, c'est un gars important, mais il s'en venait vieux. Il fallait qu'il y en ait une équipe qui allait plus pour la coupe. Là.
Ce gars-là, ça fait 10 ans qu'il a l'air d'avoir 55 ans.
T'as-tu des superstitions?
Des grosses superstitions, non, mais j'ai ma routine. Avant le match, tout le temps, je tape mes bâtons tout dans la même façon. Je fais les mêmes étirements. Pendant le warm-up, c'est tout le temps la même chose. Si vous me regardez 2-3 games pendant le warm-up, ça va être un copier-coller à chaque fois.
Arena que tu aimerais visiter en tant que joueur, partisan?
L'arena de New York des Rangers, je me suis dit que c'était assez incroyable, surtout pendant les matchs. Là. J'ai jamais pu voir une autre arena pendant un match que le Canadien, puis n'importe quelle arena, je te dirais peut-être pas Utah. Pendant une game, même avec les fans, c'est n'importe quelle arena, même Utah, ça doit être une très belle expérience, mais le Rogers, ça doit être quelque chose.
Mais Utah, ça a l'air qu'il y a il y a certains endroits, comment que l'arena est faite, tu vois même pas la glace à cause des bancs mal placés, fait que honnêtement, je paierais pas le voyage pour aller là.
J'irais peut-être pas voir une game, mais jouer, ça me dérangerait pas.
Ah, jouer,
ouais. Foursome de golf de rêve, ça peut être avec des célébrités, des personnes décédées, toi puis trois personnes.
Foursome. Ouf. C'est une bonne question. Ben, je prendrais un ami en premier, je prendrais pas de vin.
Yeah.
Ça, c'est un gars qui a toujours été là pour moi, puis on fait souvent des choses ensemble, puis ce gars-là, je veux tout le temps le garder. Puis sinon, des célébrités. Avec David, c'est un peu normal. C'est le classique. Tout le monde veut le rencontrer. Sinon, peut-être un coach. Peut-être John Cooper, l'Armada. Beaucoup d'expérience pourrait m'apprendre un peu.
OK. C'est bon, ça, c'était pas dans nos questions. Mais vu que tu parles de coach, un après-carrière possible, plus coach ou directeur général?
Si j'en aurais un, alors OK. Je pense que j'irais plus directeur général.
Ah ouais, OK.
J'aimerais ça aussi être coach. C'est sûr que c'est une autre possibilité, mais directeur général, je trouve que ça serait plus dans ma gamme. Ça serait plus dans mon type de personne.
Aimes-tu ça négocier, puis tenir ton bout, puis avoir
un nom? Oui.
OK. Un joueur underrated à Val d'Or?
Un joueur underrated, je dirais Du Rocher.
Mm-hmm.
Du Rocher, c'est sa deuxième année à Val d'Or, puis il fait plus que ce qu'on s'attendait de lui. Il est un peu comme moi, il joue partout. Défensivement, il est très, très bon. On peut compter sur lui dans n'importe quelle situation. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance.
Parfait.
Que dirais-tu au Nathan de 16 ans?
Ben, je dirais juste d'avoir confiance en lui. Ça a été un peu plus dur ma première saison, comme je disais tantôt. Puis juste avoir confiance en moi, pas juste penser aux points, penser à tout ce qu'il y a avant les points, c'est juste se concentrer sur la game.
Que pouvons-nous te souhaiter pour la suite?
Ben, comme je disais tantôt, un camp. T'sais, le repêchage, c'est le but premier, mais le camp, ça m'irait tout autant. Là, puis avoir une expérience à NHL, c'est. Ça serait très, très important.
Ah, c'est sûr qu'on te le souhaite, ça.
C'est certain qu'on te le souhaite.
Merci d'être passé, Nathan. Un bon 40 minutes avec toi. Ça a été très intéressant.
Pas trop. Merci à vous.
Merci. Bonne journée. Bon souper. Bonjour.
Salut. Merci.
Salut. Yes. Là, j'ai un blanc de mémoire. Faisais-tu le ref ou toi, ton jeu avant?
Le ref avant.
Le ref, OK. Oh, c'est bon. On l'envoie.
Fait que là, le joueur, quand il est arrivé, il a mis son stick en dessous.
Ben, il est son bâton, il a poussé ce gars-là. Il l'avait, la porte.
Salut, Riff. Salut,
boys.
Ça va?
Comment ça va?
Oh, ben, toi?
Ben oui, ça va super bien. Je vais commencer par répondre à votre question du début. Donc, est-ce que les Canadiens ont bien fait de ne pas bouger? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que, bon, écoute, c'est pas encore le temps d'aller chercher la pièce maîtresse pour aller à la Coupe ou de sacrifier des choix, sacrifier des jeunes, c'est pas encore le temps. Puis, ben, là où ce qu'ils sont d'une place à se battre pour les séries. Fait que non, c'était pas le temps d'aller non plus de... Tu sais, bon, il y a peut-être Christian Devarty, restait Devorak, Armia, Savard, que le contrat se termine cette année. Moi, je pense que, tu sais, en même temps, si tes échanges, pourquoi ton push pour les séries, ça te prend un joueur capable de prendre le place. Puis là, présentement, dans le système, pas certain qu'il y en a. Surtout avec la blessure à Dak. Donc là, il y a Owen Beck qui est là. Sauf que, tu sais, Owen Beck, il est quand même bon, mais on voit qu'il manque un peu d'expérience. Oui, Zach.
Excusez-moi, mais c'est pas Dak non plus qui nous apporte en série deuxième centre.
Non. C'est sûr que ça prend un deuxième centre. Sauf que, tu sais, ce que je veux dire, c'est tu vas chercher où. Puis peut-être que le bon moment pour aller chercher ce deuxième centre-là, ça va être plus cet été. Là, l'équipe semble soudée. Donc, tu sais, le push pour les séries va se faire vraiment en équipe. Bon, hier, défaite qui a fait mal. En plus de Ottawa puis New York Rangers, qui ça se termine en prolongation. Fait que ça, c'était pas... écoute, c'est dans le worst case scenario, là, dans le pire scénario possible, c'est pas mal ça qui est arrivé hier. Sauf que là, bon, juste à deux points. Sauf que moi, je pense que ça prend vraiment deux victoires les deux prochains matchs. Donc, avoir un voyage de 5 points sur 8, c'est l'idéal pour revenir à la maison pour le dernier push. Ça va?
Ouais.
Pas encore
ajouté? Tout a été dit, je pense.
Mais moi, c'est parce que dans le fond, il y en a qui auraient espéré, un peu comme moi, avoir un joueur de deuxième centre. J'aurais espéré. Sauf qu'on s'est fait dire toute la journée que ce genre d'échange-là, ça se fait pas à date limite, ça se fait dans l'été, comme tu l'as dit. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que pour recevoir quelque chose, il faut donner quelque chose. Le plan, c'est pas avoir un bon joueur pour les deux prochaines années, c'est que l'équipe elle soit bonne pour les 10 prochaines. Moi, à la date limite, j'avais pas bien réfléchi. J'étais prêt à faire mon deuil, j'étais prêt à sacrifier Logan Mailloux pour n'importe quel bon joueur de deuxième centre. Mais écoute, je pense que là, c'est passé. Il faut juste l'accepter. Ce qu'on va faire les séries, ça va être tough. Ça va être une grosse bagarre jusqu'à la fin de l'année. On ne gagnera pas la Coupe cette année, les gars. Excuse-moi de briser les rêves. Là, mais
bref, Jérémy m'avait dit pour l'échange de Cousins, notre équivalent, c'était Dak et Mailloux, je ne me trompe pas. C'est-tu Jérémy qui m'avait dit ça ou Sébastien, un des deux? Là?
Dak ne m'aurait pas dérangé. Lui.
Ouais. Mais Mailloux, il y a quand même un potentiel, je trouve, intéressant.
Surtout que, tu sais, on a monsieur, tu sais, mettons, les trois joueurs qu'on a nommés tantôt, Devorak, Savard, puis.
Armia.
L'autre, là. Ouais, Armia. Combien des trois vont rester avec les Canadiens?
Mais Armia, il y aurait déjà discussion pour une prolongation. Genre d'or. Okay.
Mais justement, là, mettons qu'on parlait de Mailloux, Savard, vas-tu rester?
Non, je pense pas.
Puis, excusez-moi, ben en ce moment, c'est Struble qui est là, ben j'ai comme l'impression que c'est plus la place à Mailloux.
Ouais.
Bref.
Ouais.
Bon, ok. Je peux partir avec mes sujets?
Ouais, vas-y.
OK, on va commencer avec le CF Montréal. Pourquoi? Bon, saison, début de saison un peu difficile, 3 défaites de suite. Sauf que, jusqu'à vous parler d'Alexander Gouboglou. Pourquoi? Parce que c'est le plus jeune joueur ever à avoir débuté un match avec le CF Montréal. Le gars, il n'a même pas 18 ans encore. Il a 17 ans, 353 jours. Fait Alexander Gouboglou, ça a l'air qu'il va être bien bon. Fait qu'on va lui donner une coupe de saison là, à s'adapter au jeu de la MLS. Mais bref, c'est ça. Fait que je voulais juste le dire parce que je trouvais ça impressionnant qu'un joueur qui n'a même pas 18 ans encore puisse jouer dans une ligue professionnelle de haut, haut niveau. Alex Ovechkin, 885 buts. Là, ça veut dire qu'il en manque 9 pour égaler Gretzky, 10 pour le dépasser. Il reste 19 games à jouer. Un peu plus d'un but ou deux matchs. Il va tout l'avoir. Moi, je pense qu'Ovechkin est capable de faire ça. Mais écoute, c'est ça. Fait qu'on va regarder là, d'ici la fin de la saison. On va suivre ça attentivement, certainement. On parlait un peu de on en parlait tantôt. Là, on parlait un peu de... Pardon, on parle un peu de classement. Bon, fait que là, on voit ici que bon, le CH est à 66 points, 2 points des séries. Donc là, ce qui arrive, c'est que le CH n'a pas le bris d'égalité à date sur personne. Mettons qu'on tasse, regarde, Détroit, on voit que Détroit est en haut. Mettons que New York-Montréal arrive à égalité au terme des points. New York va être quand même avant. Pourquoi? Parce que bon, il y a des stats, une colonne qu'on ne voit pas. À cause du, en anglais, ils appellent ça RO. En français, c'est VRE. Donc, victoire régulière et prolongation. Victoire à la régulière. New York a plus de victoires que le CH. La seule équipe dans tous ceux-là que Montréal pourrait devancer, ce serait les Blue Jackets de Columbus, qui sont une ou deux victoires là, VRP de plus que le CH, mais que le CH pourrait rattraper.
Si je ne me trompe pas, New York, ben les Rangers et Columbus s'affrontent aujourd'hui, espérant que ça n'aille pas en prolongation, parce que ça ferait chier.
Effectivement, non, ça ne prend pas de prolongation. Quand ça prend une victoire, ben, d'un bord ou de l'autre dans ce cas-là, parce que c'est sûr que j'aimerais mieux Rangers. Pourquoi? Parce que, justement, on pourrait aller rechercher Columbus par après. Puis, bref, mais c'est ça. Mais comme j'ai dit tantôt, ça prend deux victoires pour les deux prochains matchs des Canadiens. On est un podcast, donc 85% est la JMQ. Fait que pour ça, ben, on va regarder les classements et la JMQ. Fait que là, ici, on voit le classement. Là j'ai pas mis les quatre premiers. Pourquoi? Parce que je voulais juste vous montrer donc, la bataille. Là. La bataille, je dirais Moussette, Olympique, Sea Dogs. Les Tigres, malheureusement, avec 5 matchs à jouer, ça va être très difficile parce que là, ils ont 46 points maximum à aller chercher. On s'entend que les Olympiques, là, c'est juste 3. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que les Tigres gagnent leurs 5 prochains matchs, ça va être assez difficile. Sauf que là, il y a quand même une belle bataille à 3 pour 2 postes. Donc, les Mooseheads, les Olympiques et les Sea Dogs. Si on passe à l'autre site, donc la conférence de l'Ouest, comme on parlait tantôt, les Foreurs, ils vont rester 6e. Ça, c'est sûr. Okay, parce que, bon, monter 5e, il faudrait qu'ils gagnent les 5 prochains matchs, puis que le Phoenix perde les 5 prochains, ce qui risque pas d'arriver. Là. Écoute, c'est ça, ça serait un miracle. Donc, il y a encore une possibilité pour les Foreurs d'affronter les Huskies, les Cataractes, l'Armada, le Phoenix en série. Présentement, oui, ce serait les Cataractes. Les Foreurs ont quand même une belle saison contre les Cataractes. Sauf que, mais c'est ça. Fait que, bref, de toute façon, en série, ça n'a jamais rien à voir avec la saison. Fait que, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, on va lui reste 5 ou 6 matchs à jouer. Fait que, on va passer au segment, la section Est. Qui est la section Est? Bon, fait que c'est ça. Fait que, bon, le Wildcats, on oublie ça, il reste là. Chicoutimi, ben, ils peuvent pas se faire dépasser non plus. Ça revient un petit peu au même là, que tantôt. Là. Saguenay, le maximum qu'ils pourraient aller chercher, donc c'est 86 points, ce qui mettrait égal, sauf que le nombre de victoires de l'Océanique à 41, ben, Saguenay peuvent aller chercher maximum 38. Donc, l'Océanique a le bris d'égalité là-dessus. Donc, impossible pour le Saguenayen de rattraper l'Océanique. Pour les autres, ben là, tu sais, c'est quand même un petit peu serré. Eagles, Drakkar, Titan. Fait que, tu sais, ces trois-là pourraient peut-être changer de position. Mais donc, bref, c'est ça. Fait qu'on en reste là. Les Remparts devraient terminer. Bon, c'est pas impossible qu'il y ait septième. Ils devraient terminer au huitième rang. Quand même 6 points d'accord. Mais sur 8 à aller chercher. 8 minimum. Donc, ça les fait 61 points. Ce qui voudrait dire que les Islanders perdraient tout le reste. Qui, bref, assez surprenant. Mm-hmm. OK, c'est ça. Ça, c'est un classement LGMQ. Fait qu'on va passer à l'ovation du ref de la semaine.
Une fin. Veilleux s'amène. C'est le qu'on va le prendre.
Quel tir de Veilleux! Batters gaffe. Veilleux marque. C'est 3-0.
On va le forcer à passer à Bourroche. Un tir bloqué, retour.
Et quel arrêt de Blackburn!
Komarov la fin, ça va en son but. Incapable de tirer quand on a filé revient-devant. Et but!
Bien créé par Poirier. De l'autre côté, la passe. La flou a oh! Et le but! Quel but!
Rapide. Entre, couvert le filet.
Oh, wow!
Oh, wow! Simon!
Fait que là, version du rep, hashtag remplissons les arénas, faut aller voir ça, ces jeunes-là, performer. Bon, vous savez, à tous les semaines, je fais l'ovation du rep. C'est pas nécessairement le jeu, l'arrêt, le plus spectaculaire. C'est juste des fois ce qui se passe avant. Là, ce qui s'est passé avant, c'est l'invité du jour, Nathan Brisson. Regardez bien son entrée en zone, perd un peu l'équilibre, il se fait mettre en échec. Mais il réussit quand même à faire la passe à son chum Noah Reinhardt.
En sortie de territoire. Entre chez l'ennemi, fait une chute. Ah, Reinhardt est seul. Et le but! Deux reprises. Et Reinhardt, qui s'était blotti là, hérite d'une rondelle libre et surprend le gardien du Titan. 4-1. Valdor en total contrôle. Et que ça peut tourner vite.
Écoute, il y avait l'espace d'une rondelle.
Donc, l'énergie du désespoir, écoute, jamais abandonné, c'est dans l'ADN de Nathan Brisson. On le voit là-dessus, écoute, le gars, il est sur le dos. Il est littéralement sur le dos. Trouve une façon de faire la passe à Noah Reinhardt qui arrive sur l'aile des joues de goal-là. Peut-être que, tu sais, mettons, c'est sûr que Noah Reinhardt, il ne score pas là-dessus. On n'en parle pas aujourd'hui. Sauf que n'empêche le jeu qu'il a fait, bref. Là, ça méritait d'être soumis. On passe au You Can Do That moment de la semaine?
Yes.
I'll have none of your God. You can't do that. You Can Do That, je vais donner ça cette semaine à Chris Drury, DG des Rangers de New York. Pourquoi? Parce que le gars, il se bat pour une place en série, mais là, il fait tellement de changements que, écoute, Je comprends que tu es peut-être vendeur. Dans ta tête, tu es peut-être vendeur, sauf que tu peux pas pour une place en série. Là, tu changes 4-5 joueurs. Là, tu amènes Brandstrom, s'en va. Tu amènes au BQBL, tu l'envoies à Ford. Écoute, c'est parce que c'est pas juste d'amener des joueurs pour amener des joueurs, là, c'est parce qu'il faut que ça colle. Là, puis j'ai l'impression qu'ils sont peut-être trop à la limite pour prendre le temps de s'installer. Là. Je veux dire, il y a trop de nouveaux joueurs à New York. Bon, hier, ils ont perdu en prolongation. Peut-être qu'ils vont me faire mentir, peut-être. Sauf que moi, je trouve tellement que Chris Drury, il s'est planté là-dessus. Parce que, écoute, veut pas, là. Juste une game de série, ça rapporte à peu près un 5 millions à l'équipe. OK, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je n'ai pas le moyen de cracher sur 5 millions.
Bon.
Là, Zach, tu as l'air de ne pas comprendre. Pourquoi? Parce que tes joueurs en série, tu ne les payes pas. Techniquement, leur salaire, c'est de la première à la 82e ligne. Fait que, tout ce que tu fais en série, tes présences en série, c'est un bonus pour l'organisation. Donc,
pour les billets vendus et tout ça, là?
Ouais, les billets vendus, les concessions, les chandails, la bouffe, tout ça, là, okay, ça représente à peu près 4 à 5 millions, dépendamment de la grosseur de l'aréna, bien évidemment. Mais bref, c'est ça. Okay, moi, je trouve que Kuzuri s'est planté là-dessus. peut-être qu'il va me faire mentir, peut-être, sauf qu'il se mérite. Bon, you can do that moment de la semaine. On va passer aux trois étoiles, les chroniqueurs sur la bande, avant de passer au segment Zach. Donc, les trois étoiles de la semaine, la troisième étoile, le third star, Sylvain Plamondon. La deuxième étoile, le second star, Mathieu Duguay. Et la première étoile, le first stars, le tandem, Nicolas et Gabriel.
GG,
donc,
les gars.
Félicitations à tout le monde. Good job.
Parfait.
Fait que sur ce, on va passer aux commentaires d'après-match.
Yes.
Vous êtes prêts? Let's go.
Yes.
Fait qu'aujourd'hui, les gars, petit concept de Redraft 2018. Ça n'a pas été créé par eux parce que des Redrafts, tout le monde en fait. Mais c'est Cheap Shot Pod. Le concept, c'est quand même, je l'ai pris d'eux. Fait qu'écoutez, 2018, les gars, on va y aller bien simple. Seb, je vais te nommer en premier. Tu me dis ton premier. Déjà le premier, j'espère qu'on a tous la même, les gars. Fait que Seb, tu me dis ton premier, je dis le mien. Claude, tu dis le tien.
Tout à l'heure, j'ai pas vu le même premier, là, mais moi, Brady Tkachuk, sans aucun doute. Premier.
Brady Tkachuk, ok.
Ouais.
Brady Tkachuk, moi j'ai Quinn Hughes, Claude.
Ok, Claude aussi, je pense. Ouais,
ouais moi aussi je suis allé avec Quinn Hughes.
Ok, Seb, tu comprends que t'es tout seul. Là. Fait que va falloir que tu nous expliques comment Brady Tkachuk avant Quinn Hughes.
Quinn Hughes, défensivement, c'est un fiasco. Brady Tkachuk, c'est un gars que t'as besoin en série. C'est un gars plus solide. En tout cas, j'essaie de me défendre tout seul, là, mais.
Non, mais si c'est tes explications, c'est correct. Pat, as-tu peut-être une réponse du pourquoi on met Quinn Hughes avant Brady?
Ben, fiasco défensivement, je ne suis pas trop d'accord. Mais bref, mettons qu'il est correct défensivement puis qu'offensivement, c'est une bête. Un défenseur, toujours plus. Un bon défenseur, un excellent défenseur, c'est toujours plus difficile à avoir. Qu'un bon joueur qu'un bon attaquant. Okay? Je ne sais plus c'est qui l'a dit la première fois, mais ça a été répété souvent, tu n'as jamais trop de défenseurs dans une équipe. Okay? Parce que ça te prend toujours de la profondeur, de la profondeur. Bon, Quinn Hughes, capitaine, c'est sûr que Brady Tkachuk aussi, mais je trouve que, pour ces raisons-là, je trouve que Quinn Hughes méritait d'être là avant Brady Tkachuk.
On a Gab Lemire qui nous dit « Je suis d'accord avec Seb ». Fait qu'on est 2-2. Gab, t'es pas dans l'écran, mais on est 2-2. C'est bon.
Je veux dire, genre, Quinn Hughes, 60 points, right, mais le gars, il était à plus 10. Fait que ça veut dire qu'il est quand même sur la plupart des buts de son équipe.
Sauf que son équipe, cette année, c'est une crise de joke.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr.
Fait que, mettons qu'on continue. Claude, ton deuxième, j'imagine que je sais qui, mais tu peux le dire pareil.
En deuxième, Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, écoute, ce qui amène, je vais vous laisser parler, puis si j'ai besoin d'explication, je le ferai.
Ben, j'ai Brady Tkachuk aussi, probablement pour les mêmes raisons, puis Seb, ben, t'as pas à t'obstiner parce que t'as mis le premier. Mais Seb, ouais, c'est ça. Mais fait que pour Brady Tkachuk, dans la liste qu'on a, Brady Tkachuk et Trick, ben, mettons, Quinn Hughes et Brady Tkachuk sont très certainement les deux premiers. Pour tout ce qui amène. Écoute, Brady, tout le monde savait qu'il était extrêmement bon, puis une peste, mais la confrontation des quatre nations, ça l'a mis encore meilleur qu'il est, parce que ce gars-là était 100%, sans aucun doute, le meilleur joueur américain durant tout le tournoi.
C'est le genre de gars que tu veux avoir dans ton équipe, là. Bon, en série, on ne peut pas savoir, on ne l'a pas vu, sauf que ce qu'il a fait aux quatre nations, ça peut démontrer un peu quelle sorte de joueur ça va être en série pour les sénateurs.
Effectivement. Parfait. Sébastien, en troisième.
Je ne me rappelle plus qui. Jimmy Svechnikov. Ouais, c'est vrai.
Okay, Sébastien, quelque chose contre les défenseurs. Parce que moi, j'ai M. Rasmus Dahlin.
J'ai pas quelque chose contre les défenseurs. C'est...
Moi, je suis allé avec Rasmus Dahlin encore une fois, probablement pour les mêmes raisons que Zach. Écoute, c'était quand même le premier drafté overall. C'est sûr que, bon, là, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir comme faux deux matchs là, contre le CH dernièrement.
C'était pas fort, ces deux matchs-là.
Rasmus Dahlin, c'est parce que c'est le genre de gars qui, écoute, il peut sortir un lapin de son chapeau n'importe quand, là, puis bang, il fait mal. Là.
Ouais, mais moi, pourquoi je l'ai mis, Zvechnikov, il est très bas dans ma liste. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il a été bon, genre, il y a eu des très bonnes premières années, puis là, on dirait qu'on en a... probablement, parce que je regarde pas tant les Hurricanes, mais c'est pas le gars... Tu penses au Hurricane, c'est pas à lui que tu penses en premier. Bon, là, vous allez me dire, tu penses au Sol, tu penses à Tage Thompson, mais Rasmus Dahlin reste first overall, reste un défenseur de très grosse qualité et qui, à mon sens, est meilleur que Andrei Zvechnikov.
Moi, je trouve que Zvechnikov, il est trop... il a trop de superstars en avant de lui, c'est ce qui l'empêche de prouver que sa véritable valeur.
Sauf que, je veux dire, Evgeny Malkin a une très belle carrière, même si monsieur se décrase bien avant de lui.
Non, c'est sûr.
Faut qu'il trouve la façon de se faire plus repérer. Mais écoute, chacun a notre opinion, puis c'est très bon. J'aime le concept à date. Fait que Claude, tu peux y aller avec ton quatrième. Ah, puis Dahlin est sous-estimé, troisième parfait. Gabriel est d'accord avec Rasmus Dahlin. Parfait.
Bon, OK, cool. mon quatrième, écoute, c'est Zvechnikov. Donc, écoute, Zach, ben pas Zach, Seb, à place de le mettre troisième avant Dahlin, moi, je l'ai mis quatrième, là, Zvechnikov. Donc, il passerait, mettons, de 2 à 4, là, selon mon ranking et moi.
Oui, Dahlin, c'est mon quatrième choix. C'est un défenseur. On voit que Buffalo, c'est pas le top pour développer un joueur, mais... C'est quand même le capitaine de l'équipe. Il est rendu à quoi, 24 ans? 24-25? Je calcule vite fait.
Ouais. Moi, j'ai mis Evan Bouchard parce qu'il sort un peu... il sort un peu de nulle part.
Ouais.
Qui fait une coalice de jobs. Mais là, je regarde mon rang. J'aurais mis mon cinquième avant mon quatrième finalement. Parce que mon cinquième a un côté beaucoup plus défensif développé, à mon humble avis. Kevin Bouchard.
Ton 5.
Mon cinquième est Noah Dobson.
Je pense
Noah Dobson est meilleur défensivement que Evan Bouchard Takama, mais pour son aspect offensif, c'est sûr qu'il y a le monstre à deux têtes pour l'aider à faire des points, mais ça reste que c'est un sacrement de bon joueur. Fait que mon cinquième, on va y aller, Noah Dobson.
Moi aussi, je me trompe pas, j'ai dit, ouais, ça, Noah Dobson, cinquième. Claude, Kirill Marchenko.
Ouais, je te lève avec Kirill Marchenko. Pourquoi si probablement un des
joueurs
de ouais, qui était une surprise. Tu regardes son apport offensif écoute, qui est assez indéniable. C'est rien contre Noah Dobson. C'est juste que je trouvais que le upset offensif qu'il a amené qu'on s'attendait pas, ça méritait peut-être d'être là.
Parfait.
Sixième.
Je ne sais pas, on est rendu à qui, là.
Ben, je suis là en premier, non, je sais pas.
Vas-y.
Donc, sixième, là, je suis allé avec Evan Bouchard.
Dobson. Dobson, il est loin dans ta liste, ça, j'aime de remarquer.
Ouais, Dobson, ouais. Ben, c'est... On en parlera tantôt, OK?
OK, ça va.
Ancien ski, s'il n'aime pas ça.
Ouais.
Oh, moi,
Zvechnikov.
Seb?
Moi, c'est Kirill Marchenko.
Dans le fond, c'est sûr que, bon, Kirill Marchenko, toi, tu l'as mis 6, moi, je l'ai mis 5. J'ai mis Evan Bouchard 5. Écoute, c'est juste parce que, bon, ce qui amène... C'est ça. Écoute, regarde, c'est pas un joueur parfait, sauf que, tu sais, 2018, c'est quand même un draft assez difficile.
C'est dur à évaluer, hein. C'est...
Ouais. Ben à partir de ça, tu sais, les cinq premiers, mettons, 6-7 premiers, ben déjà, on n'est pas totalement pareil, mais c'était un peu plus facile. À partir de 8, 9 puis 10, là, tabarouette, c'était dur à classer.
Non, c'est vraiment tough à classer, là.
On est rendu à 7e, 7, Sébastien.
7, j'ai mis... Evan Bouchard. Je trouve que dans un club autre que les Oilers, il ne serait pas le même style de défenseur offensif.
OK. Moi, j'ai mis M. K. Andre Miller. Très bon défenseur, très bon jeune défenseur qui tarde un peu peut-être à se faire totalement valoir, mais en même temps, il a un pied dans la porte pour être une superstar tant qu'à moi.
Mon septième, j'ai mis Joël Farabee. Quand même déjà atteint le plateau des 20 buts, pas cette année, là, mais dans les autres saisons avant. Un joueur un peu, je veux dire, underrated. Un joueur un peu qui passe un peu sous silence, mais encore hier, bon, là, c'est pas parce qu'il score hier, mais encore hier, il a scoré contre, c'est lui qui a scoré contre les Canadiens le seul but. Fait que c'est pour ça que Joel Farabee, moi, je l'ai monté un peu, je l'ai mis dans mon top 7. Ce qui exclut, oui, ça exclut Noah Dobson dans mon top 7.
Fait qu'il est dans ton top 8, au moins.
On va aller voir ça tout de suite. Noah Dobson, oui, dans mon top 8. Fait que, écoute, oui, c'est ça. Noah Dobson, c'est pas que j'aime pas le joueur, j'aime beaucoup le joueur parce que sinon, il aurait pas été dans mon top 10. Mais c'est ça. Donc, son poise offensif qui amène défensivement quand même fiable. Écoute, c'est sûr que ça reste à discussion parce que le repêchage, c'est jamais une science exacte. Et est-ce que tu préfères Evan Bouchard ou Noah Dobson, deux défenseurs différent.
Okay, c'est juste pour le repêchage, pas une séance exacte, parce que pour ceux qui écoutent l'hockey depuis longtemps et qui sont intéressés par les drafts, tu verras que Dobson 8e est impardonnable. Gab, il n'est pas d'accord avec ton Dobson 8e, mais ce que je voulais dire, c'est que le rang a totalement changé, là, parce que Rasmus Dahlin était premier, Quinn Hughes 4e, Tkachuk 3e, Tkachuk 4e, ben justement, le 3e, il n'est pas dans le top 10 de personne. Fait que pour continuer, moi, mon choix numéro 8, ça va être Joel Farabee.
Moi, mon 8, c'est Kendrick Miller.
Parfait. C'est bien ça. Moi, plutôt, on l'a pas mal échangé. Ouais. OK, non, Farabee plus bas, c'est correct. Fait que ton 9e, Seb, on l'a vu.
Joel Farabee, ouais. Je pense que le changement d'heure, ça va lui faire du bien à la Calgary.
Ouais, parfait. Moi, mon choix numéro, là, on est rendu à 9.
Ouais.
Monsieur Alexandre Romanov, que j'aurais pu échanger aussi avec mon 10, mais je le connais plus que le 10e, contrairement à vous, que vous avez l'air de plus le connaître que moi. Mais bref, Alexandre Romanov, je peux pas dire qu'il va devenir une superstar, mais à mon sens, très fiable, assez fiable, on va dire, défensivement. Côté offensif, il sert pas tant à ça, tant qu'à moi. Puis son côté physique qu'il apporte, c'est les mises en échec. Tu peux pas aller contre Alexandre Romanov puis pas avoir mal une à deux fois par match.
Non, moi, j'étais assez d'accord. Donc, j'ai mis Alexandre Romanov là, au 9e rang, moi aussi. Un joueur un peu plus silencieux. Tu sais, c'est pas le genre de joueur que tu vois d'un match, à part quand il fait des grosses mises en échec, là. Mais tu sais, c'est pas le genre de joueur qui va être super éclatant. Mais donc, il est dans mon top 10 pour sa fiabilité. Le top 7 est solide. Après, c'est dur à classer. On m'a dit good job, boys. Pas évident à faire. Message de Gabriel.
Ouais. Pour finir mon top 10, j'ai mis Rasmus Sandin, un défenseur quand même très bon défensivement.
J'ai hésité à le mettre longtemps, mais j'ai été avec Kirill Marchenko, justement, parce que c'était impossible que j'y allais avec ceux que je connaissais qui restaient, justement. C'était fucking Kotkaniemi. C'était impossible que j'y aille avec lui. J'ai checké les stats un peu de Marchenko. Sans le connaître, il avait l'air de bien fonctionner. Fait que c'est pour ça qu'il est juste mon 10e comparé à votre 5e et votre 6e.
Puis moi, mais je termine ça avec Barrett Hinton. J'ai hésité. Est-ce que j'y vais avec Barrett Hayton ou j'y vais avec Andrew Miller? Parce que j'étais là. J'étais vraiment là. Puis écoute, j'ai regardé Hayton, Kotkaniemi, Andrew Miller. Okay? Fait que là, vite fait, j'ai éliminé Kotkaniemi. Là, je regardais puis je trouvais que Barrett Hayton, l'impact qu'il avait eu. C'était peut-être plus je sais que c'était un attaquant versus un défenseur, mais je regardais que l'impact qu'il avait eu était peut-être plus important que l'impact de Andrew Miller.
Parfait, c'était très intéressant. On pourrait faire d'autres drafts à un moment donné, hein. Je pense qu'on a eu des bons débats pareil.
Ouais, je pense que le prochain podcast, ça doit être ça, parce que je vais essayer d'interchanger, mais je pense que c'est peut-être plus long, mais je trouve que c'est. Et même pas dans le top 15 si on refait le draft. Ouais, probablement pas.
Je vais faire une autre vidéo sur YouTube. Que, je vais couper ce segment-là puis je vais faire une autre vidéo. Parce que le monde va être quand même intéressé à voir ça serait quoi notre top 10 de ce graphe-là.
Ouais, parfait. Puis c'est ça. C'est peut-être un peu plus long, mais ça mène à plusieurs discussions à savoir qui pense quoi. Comme je pensais pas que Seb aimait pas les défenseurs. Non, mais c'est ça. Puis. Mais Barrett Hayton, j'y ai pensé aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'encore une fois, comme Zvetch, on le voit pas assez à cause des autres attaquants dans son équipe, en Dylan Gunter, en Clayton Keller, puis c'est quoi l'autre? Cooley. C'est pas la vedette offensive. Mais bref, c'est ce qui conclut le redraft de 2018. Je sais pas encore quel draft qu'on va faire la semaine prochaine, mais...
Yes.
Fait que, les boys, je vous laisse le mot de la fin. Je m'en retourne en coulisses. Bye bye.
Yes.
Shane Wright a fait un but 1-0 Kraken contre les Capitals.
Là, je l'annonce le prochain invité vu que c'est pas officiel ou j'attends ou...
Bon, si c'est pas officiel, je le ferai pas.
Ben, c'est pas mal officiel, mais c'est juste à confirmer.
Vas-y, si tu
veux. Ça va être le gardien des Huskies, Samuel Moloche. Il va débarquer sur la bande dimanche prochain. À 19h, moi, c'est mon dernier épisode avant de partir dans le sud. Fait qu'après ça, Zach, Claude, ils vont s'arranger avec ça. Non, c'est une joke.
Correct, man.
Non, c'est une blague. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. On a fait 1h11 finalement avec tous les segments. Merci à Nathan encore d'être venu. Puis là-dessus, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et on se dit à la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Bye.
Sur la Gazette, tout un parcours des gros segments sur nos athlètes. Les trois étoiles de la semaine me font tourner la tête. Tire de barrage, on shoot des questions en rafale. Des vrais sportifs qui font des entrées remarquables. On aime parler de tout chaque journée.